Aujourd'hui donc, j'ai résolu de vous parler de l'Assomption. Chose assez difficile pour un pasteur, puisqu'il n'y a aucune source biblique pour cette doctrine. Cette doctrine est en fait pour nos frères romains plus qu'une doctrine, puisque c'est un dogme. C'est en fait, sans doute savez-vous, le dogme le plus récent qui ait été promulgué dans l'Église catholique romaine, puisqu'il a été promulgué par un texte, une constitution apostolique de Pie XII, le 1er mai 1950, c'est-à-dire il y a à peu près 60 ans. Et ce texte est donc couvert par l'infaillibilité pontificale, et pour information, je vous en lis la partie essentielle donc de ce passage. Où il dit « Nous affirmons, nous déclarons, nous définissons, comme un dogme divinement révélé, que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Par conséquent, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, niait ou osait volontairement mettre en doute ce qui a été défini par nous, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique. » À bon entendeur, donc, la chose est claire. Néanmoins, cette doctrine est assez logique. On peut la comprendre de différentes manières, et je dirais qu'il y en a une qui me semble critiquable et une qui me semble assez juste, d'une certaine manière. La vision la plus critiquable de cette doctrine, c'est de comprendre que ce n'est que la suite logique du dogme précédent, qui date du 8 décembre 1854, et qui est la doctrine de l'Immaculée Conception. Vous savez que selon cette doctrine, Marie serait née sans la trace du péché originel. Or, dans la théologie catholique, l'homme n'est devenu mortel qu'à cause du péché originel. Par conséquent, la logique mathématique, je dirais, du dogme de l'Immaculée Conception, c'est que si Marie n'a pas le péché originel, alors elle n'est pas mortelle. Et c'est pourquoi on a vu, donc à partir du 19e, essentiellement, fleurir la notion non pas de mort de Marie, mais de dormition. Donc Marie ne meurt pas, elle dort en quelque sorte. Et puis également donc de l'Assomption, parce qu'il fallait bien trouver un moyen pour se débarrasser de son corps. Et ce qui est de critiquable, je dirais, là-dedans, c'est cette espèce de tendance romaine, je dirais, depuis longtemps, d'attribuer à Marie tout ce qui est normalement attribué au Christ. Donc effectivement, Jésus a son ascension, alors on va donner à Marie l'Assomption. Jésus a la naissance virginale, alors on donne à Marie l'Immaculée Conception. Et les spécialistes de l'Église romaine disent que le prochain dogme serait le dogme de la co-rédemption de Marie, ce qui est déjà très présent dans bien des théologiens catholiques, mais qui n'a pas encore été promulgué, c'est-à-dire que Jésus est rédempteur, et on attribue à Marie, et on le trouve dans un bon nombre de textes catholiques d'aujourd'hui, également le pouvoir de devenir rédemptrice ou co-rédemptrice avec Jésus. Cela, en tant que pasteur, ne me plaît pas beaucoup, dois-je vous dire. Mais il y a une autre lecture possible de cette Assomption, et je n'ai pas voulu en parler que pour en dire du mal, je voudrais aussi en dire du bien. Et cette autre lecture, elle me vient de la recherche que j'ai pu faire, de savoir d'où a pu germer dans les esprits, dans les théologiens romains, cette idée d'Assomption. Et en fait, le pasteur, lui, n'a qu'une seule source possible, c'est l'Écriture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a dans la Bible aucune mention possible, aucune source possible d'une quelconque Assomption de Marie. C'est-à-dire que c'est, je dirais, soit une invention des théologiens, soit quelque chose qui peut se raccrocher théologiquement à la pensée évangélique, mais il y a alors un cheminement à faire que je me propose de faire avec vous. Alors j'ai donc cherché dans ma Bible où est-ce qu'il est question d'Assomption. C'est assez facile. Parce que on connaît les mots, ce qu'a donné le mot assomption en français, qui n'est pas un vrai mot, c'est le mot latin assumere, et qui traduit le mot grec paralambano, c'est-à-dire prendre par en dessous pour élever. Et si on cherche paralambano dans son Nouveau Testament grec, on se rend compte que cette notion est finalement assez présente, mais que, ça a été ma découverte, qu'elle est toujours utilisée, non pas pour Dieu ni pour le Christ, elle est utilisée pour les disciples, pour les hommes essentiellement, et toujours et systématiquement. Et il s'agit donc des disciples dans le Nouveau Testament qui sont assumés, je dirais, assomptionnés par Dieu pour les élever à lui. Et c'est là quelque chose qui, du coup, m'intéresse, parce que, loin, si vous voulez, d'attribuer à Marie les mérites du Christ, et loin d'attribuer à Marie ce que la théologie traditionnelle, orthodoxe, attribuait à Jésus, dont on disait qu'il était un homme assumé par Dieu, c'est-à-dire que dans la théorie de l'incarnation a souvent été présentée comme étant Jésus, l'homme assumé par Dieu pour être élevé à lui. Donc, loin d'attribuer à Marie ce que l'on attribue normalement au Christ, comme je vous le disais, on peut comprendre que, d'une certaine manière, on attribue à Marie ce qui est normalement attribué aux disciples. Et là, ça m'intéresse beaucoup plus. Parce que, si je comprends bien, la mystique catholique romaine, d'un point de vue protestant, le meilleur moyen de comprendre la piété mariale, c'est de comprendre que, dans la pensée catholique, ou dans une certaine pensée catholique, Marie ne représente pas Dieu ni Jésus, mais représente le croyant. Il représente le fidèle. Il est, d'une certaine façon, l'image de l'Église. Et donc, Marie, ce n'est pas Jésus, c'est vous et moi. Et à ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus claires. Parce que, effectivement, Marie peut être considérée comme assomptionnée dans le même sens que nous, nous sommes appelés à être assomptionnés par Dieu. Et il ne s'agit pas là, contrairement à ce que dit la Constitution apostolique de Pie XII, d'une question de corps, mais il s'agit d'une question spirituelle, bien sûr, que Dieu nous prend pour nous élever à lui. Et cela, ça m'intéresse beaucoup plus. Alors, j'ai trouvé dans l'Écriture, je dirais, deux types d'assomption. La première, je vous l'ai fait entendre dans le psaume 18, en particulier au verset 17, où le psalmiste se plaint de la situation dramatique et de l'épreuve dans laquelle il est. Et le psalmiste dit « Dieu tend la main du haut du ciel, il me prend et il me délivre des eaux », c'est-à-dire de l'épreuve, du mal et de la mort. Et donc ça, c'est la première assomption de Dieu, Dieu qui prend le fidèle qui est dans le mal, dans l'épreuve, dans la souffrance et dans la mort, et il le prend pour le soulever, le tirer et le sauver. C'est cette première chose absolument essentielle, qui est une bonne nouvelle, je dirais, qui est que même au plus bas, Dieu nous saisit pour nous relever. Et même quand nous sommes, je dirais, éloignés de Dieu, Dieu nous tend la main pour nous faire remonter. Et il y a une très belle illustration de cela quand, dans l'évangile de Matthieu, quand Pierre marche sur les eaux. Il commence par marcher sur les eaux pour aller vers Jésus, et à ce moment-là, tout va bien, parce que Pierre marche par la foi. Bon, l'eau, je vous l'ai dit, représente la mort, l'épreuve, la difficulté, et le message est alors clair. Quand nous allons vers le Christ, quand nous avons les yeux tournés vers un idéal, vers un objectif, eh bien, nous pouvons traverser des océans de difficultés, d'épreuves, de maladies, de morts, de peurs et d'angoisses, et donc nous pouvons marcher au-dessus de tout cela et continuer d'être en route. Mais voilà que Pierre n'est pas si parfait que cela, et dans ce récit, il se met à douter, et à ce moment-là, il s'arrête et il s'enfonce. Et j'aime beaucoup cette image parce que il ne faudrait pas que la prédication chrétienne soit une prédication trop, comportementaliste ou volontariste, en disant « Allons, allons, il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut avancer, tant que vous aurez la foi, vous pourrez tout traverser, vous vivrez, vous serez sauvés. » Non, parce que souvent, je n'ai pas la foi, et il m'arrive de douter, et il m'arrive de ne même plus être capable d'avancer et d'être en marche. Et je crois que le salut de Dieu, n'est pas réservé aux champions de la volonté, aux champions de la foi et aux champions de la sainteté, mais que le salut de Dieu, il est justement comme une grâce qui se tourne vers celui qui n'a pas su avancer, vers celui qui s'enfonce, vers celui qui doute et vers celui qui peine et qui se décourage. Et bien justement, Pierre, alors qu'il s'enfonce, crie « Seigneur, sauve-moi !» Alors Jésus arrive, il lui tend la main et il le relève. Il le sauve de l'eau, il le retire de l'eau. Et j'aime énormément cette image. Parce que voyez-vous, Jésus ne fait aucun sermon à Pierre. Il ne lui dit pas « Enfin, reprends-toi mon ami !» Non, Pierre s'enfonce, il lui tend la main, il le relève et c'est tout. Oui, c'est vrai, il lui fera un sermon après. Il lui dira « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc certainement, il va le gronder, mais en même temps, quand il le sauve sans condition, simplement parce que Pierre a crié vers lui. Eh bien, je pense que justement, cette puissance de Dieu qui nous sauve et qui nous tire de la boue, qui nous tire de l'eau, qui nous relève de l'épreuve et de la mort, eh bien, c'est quelque chose qu'il fait par sa seule grâce. Et sur ce point, je m'éloignerai de la doctrine romaine. C'est qu'en effet, la doctrine romaine présente l'Assomption comme étant celle de Marie et comme étant justement la conséquence du fait qu'elle soit sans péché. Eh bien, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Et c'est peut-être le point essentiel sur lequel je ne serai pas d'accord avec cette doctrine de l'Assomption mariale. Parce que je ne crois pas que l'Assomption soit réservée aux purs, soit réservée aux vierges, à ceux qui sont éloignés du péché originel et à ceux qui seraient extraordinaires des exemples de foi idéaux. L'Assomption n'est pas le prix donné, je dirais, pour récompenser les champions de la foi, mais l'Assomption, c'est la grâce de Dieu qui tombe sur le pécheur pour le relever. C'est la grâce de Dieu qui tombe sur le pécheur pour le sortir de la mort, pour le sortir de l'épreuve. Et donc l'Assomption n'est pas réservée aux purs, l'Assomption c'est pour nous tous et pour tout le monde. Les deux autres passages que je vous ai fait entendre dans l'évangile de Matthieu, en Matthieu 17 et Matthieu 20, nous parlent aussi d'Assomption pour les disciples. Mais cette fois, les disciples ne sont pas du tout dans une situation difficile. Ils sont là tout contents avec Jésus et tout va bien. Et Jésus leur dit, et d'abord dans le premier passage, en Matthieu 17, on nous dit qu'il prend Pierre, Jacques et Jean pour les faire monter sur la montagne. Ça, c'est intéressant parce que la montagne, dans la Bible, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu de la révélation, c'est le lieu lumineux où l'on peut entendre Dieu, le rencontrer face à face en quelque sorte. Et donc Jésus prend Pierre, Jacques et Jean pour les assomptionner et pour les faire monter au sommet de la montagne, là où ils verront le Christ transfiguré. Et le deuxième passage en Matthieu 20, verset 1, eh bien c'est Jésus qui prend les 12 apôtres pour les faire monter à Jérusalem. Là encore, on retrouve ce même verbe, assumere, paralambanein, qui veut dire que Jésus prend les 12 et il les fait monter, je dirais à la force du poignet, jusqu'à Jérusalem. Or là aussi, Jérusalem, dans la Bible, c'est le lieu où l'on rencontre Dieu. Jérusalem, c'est là où est le mont Sion, c'est là où est le temple, c'est le lieu même, je dirais, de la foi. C'est le lieu où l'on peut rencontrer effectivement ce Dieu pour être en relation avec lui. Et donc nous avons là l'autre action du Christ, c'est que même quand nous ne sommes pas dans l'épreuve, il nous prend là où nous sommes pour nous faire monter plus haut dans la présence de Dieu. Et nous avons donc les deux choses essentielles qu'apporte la foi, Dieu qui relève de l'épreuve, et Dieu qui, en dehors de toute épreuve, nous permet d'aller plus haut. Le premier, c'est le secours de la foi, l'aide de Dieu dans la difficulté, dans la maladie, dans l'épreuve, dans le deuil, dans toute chose qui nous éprouve, effectivement. Et c'est assez important, parce que cette aide de Dieu nous permet d'être, je dirais, au-dessus de tout, au-dessus de ce qui peut nous arriver de matériel. Il nous donne de la foi, de la force, du secours, de la consolation, pour que nous ne soyons pas englués dans ce qui nous éprouve d'un point de vue terrestre. Et l'image de Pierre dans son eau est très typique. Quand il s'enfonce, l'eau va le noyer. Et quand, avec l'aide de Dieu, il est soulevé de l'eau, à ce moment-là, il se passe une chose extraordinaire, c'est que de nouveau, il pourra marcher sur l'eau. Et, comme ont dit certains théologiens, ce qui devait à l'origine le tuer, et dans le coin il pouvait s'enfoncer, devient au contraire ce qui le soutient, ce qui le porte, et ce sur quoi il peut marcher. Il y a là un renversement, un miracle extraordinaire, un miracle existentiel que chacun peut éprouver dans la foi, parce que Dieu, effectivement, nous permet de voir les choses d'un peu plus haut et de nous soulever au-dessus de ce qui nous menacerait si nous le voyons, je dirais, face à face. Mais ce n'est pas tout, vous disais-je, car la foi n'est pas qu'une assurance contre le malheur. La foi, c'est aussi une façon de nous élever à partir de ce que nous sommes, pour voir les choses de plus haut, avec plus de lumière. Et peut-être que la foi, j'en suis persuadé, permet de vivre encore mieux les joies et les bonheurs de notre existence. Et cette assomption opérée par le Christ dans notre vie, c'est donc de nous prendre à part, de nous séparer, je dirais, de la foule, de la masse, pour nous faire monter plus haut, pour nous élever à un état supérieur, pour nous rapprocher de Dieu et pour nous permettre de découvrir une lumière extraordinaire. Et ça, c'est assez important, parce qu'il est vrai que notre nature terrestre n'est pas très brillante, il faut bien le dire, indépendamment des épreuves qui peuvent nous menacer. Nous sommes tous très limités, et nous avons tous, je crois, conscience d'avoir des défauts, d'avoir des désirs que l'on ne peut satisfaire, d'être souvent en butte à l'échec, à la contrariété, à l'épreuve, à la difficulté de vivre en paix avec ceux qui nous sont donnés de vivre avec nous, d'être limité dans nos possibilités, d'être limité par la maladie, par la mort, par beaucoup de choses. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est précisément de nous élever au-dessus de tout ça et de dire, il y a au-dessus de cette existence terrestre le soleil qui brille. Comme, vous savez, si vous prenez l'avion et que vous partez de l'aéroport dans un mauvais temps épouvantable, il y a un moment donné où, à force de monter, vous passez au-dessus des nuages et vous voyez que le beau temps règne au-dessus du plafond de nuages. Cela n'empêche pas qu'il fasse mauvais en bas, mais ça permet de voir les choses quand même d'une façon un petit peu plus agréable. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est justement de nous dire que nous ne sommes pas des êtres pour la mort, mais que nous sommes des êtres pour la vie. C'est de nous permettre de prendre du recul, de la perspective par rapport à nos événements, et non pas de garder la tête enfoncée dans notre poubelle, ni d'installer notre séjour dans nos toilettes, mais de voir la vie autrement, et de voir que notre vie n'est pas que misère, qu'épreuve, qu'insuffisance, qu'incapacité, que péché, qu'erreur et que faillite. Il y a dans notre vie autre chose, il y a du beau, il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Et tout cela, c'est des choses que l'on peut vivre dans sa vie, mais que l'on peut apprendre aussi à découvrir et à voir. Et c'est donc cette action extraordinaire, peut-être, de la foi, de Jésus qui nous prend, qui dit « Viens, mon ami, tu es en train de regarder les choses dans le mauvais sens. » Et il nous prend, il nous soulève, il nous dit « Voilà, ici, tu as autre chose, tu peux voir autrement. » Dieu peut changer notre regard. Et c'est le regard qui change tout, justement. La grâce de l'Assomption, c'est ce Christ qui vient à nous pour nous prendre tel que nous sommes, quoi que nous soyons, où que nous soyons, et qui nous saisit pour nous élever. Il y a dans l'Ancien Testament une image extraordinaire que j'aime beaucoup, du prophète Ézéchiel, je crois, au chapitre 8, je crois que c'est au verset 3, qui raconte que Dieu le saisit par les cheveux. Eh bien, voilà une assomption de l'Ancien Testament extraordinaire, de ce Dieu qui nous saisit par les cheveux, qui nous prend, qui nous tire, et qui dit « Voilà mon ami, tu es mal positionné, repositionne-toi autrement, et tu peux voir les choses d'une autre manière. » Alors, nous pouvons en effet découvrir une réalité nouvelle, un point de vue différent sur toute chose, parce que plus près de Dieu, plus près du bonheur, plus près de l'éternité, plus près d'une source de lumière qui nous permet de voir les choses autrement. Mais pour cela, certainement, comme les disciples, au jour de la Transfiguration ou à la veille de monter à Jérusalem, il faut monter et il faut suivre le Christ. Parce que c'est lui, effectivement, quand même, qui est l'homme qui a été élevé vers Dieu. Et tout à l'heure, je critiquais d'attribuer à Marie ce qui a été attribué au Christ, mais dans le fond, ce n'est pas absurde, parce que le Christ est le premier-né, de tous les croyants, et par conséquent, tout ce qui est attribué au Christ, nous pouvons l'attribuer, si ce n'est à Marie, en tout cas à nous-mêmes. Par conséquent, si le Christ a été ascensionné vers Dieu, eh bien, nous sommes invités à le suivre pour monter vers Dieu aussi. Il faut suivre le Christ, le suivre sur la montagne de la Transfiguration, le suivre sur son chemin en route vers Jérusalem, et même le suivre à sa montée vers la croix et vers le Golgotha. Parce que s'il y a un homme qui est monté vers le ciel et vers Dieu, c'est le Christ, c'est le Christ seul. « Nul ne va au Père que par moi », a dit Jésus, d'après l'évangile de Jean. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est le chemin de l'Assomption. Il est le chemin qui nous mène au Père, qui nous mène vers la lumière, vers le pardon, vers la vie éternelle, vers le salut qui est offert à tous les pécheurs. C'est lui qui nous élève vers Dieu, c'est lui que nous devons suivre, c'est lui que nous pouvons suivre, parce qu'il nous prend par les cheveux pour le suivre, et c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.